Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler à présent de l'ingénierie, de l'importance de l'ingénierie et de l'ingénieur dans le développement de la RDC. Vous savez, le monde a célébré le 4 mars la journée mondiale de l'ingénieur et de l'ingénierie. Nous avons Aline Charles Médard Ilunga, président de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Et puis, on aura dans quelques instants Monsieur Popol Biabia, premier vice-président de l'ONICIV, conseil provincial de Kinshasa. Quelle est l'importance de l'ingénieur et de l'ingénierie dans le développement du pays? Eh bien, on en parle dans quelques instants avec nos invités. Pour participer à ce programme, composez le 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiokapi.net. Pierre Diassinois assure la mise en onde. Tati Mapoukou réalise cette émission au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Bien, le monde a célébré le 4 mars la journée mondiale de l'ingénieur et de l'ingénierie. Cette journée offre l'occasion de mettre en valeur les ingénieurs et les réalisations de l'ingénierie dans notre monde moderne et d'améliorer la compréhension du public sur la manière dont l'ingénierie et la technologie sont essentielles à la vie moderne et au développement durable. Alors, quelles sont les actions stratégiques de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo pour contribuer au changement durable de la République? Nous avons en ligne Monsieur Charles Médard Ilunga, président de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Charles Médard Ilunga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Le monde a célébré le 4 mars la journée mondiale de l'ingénieur et de l'ingénierie. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de l'ingénieur et de l'ingénierie dans le développement durable du pays?
L'ingénierie, donc la journée est réellement célébrée dans la mesure où, comme vous savez, le monde fait face à des multiples défis, les défis de survie. Vous savez, avec tout ce changement climatique, le monde est sérieusement sous pression, le monde est menacé. Et nous enregistrons chaque année des événements exceptionnels sur la température qui monte d'ici 2100. On pense que l'échauffement, le gain de température va atteindre 4 degrés, ce qui a des conséquences extraordinaires sur la vie humaine, sur la vie terrestre. Et donc, il faut des mesures, il faut une large concertation pour pouvoir apporter des solutions technologiques, des solutions pour qui permettent à ce qu'on puisse vivre aujourd'hui, qu'on trouve des solutions aux problèmes de vie, mais également qu'on garantisse que demain, eh ben, on vivra. C'est justement l'ingénieur qui est appelé à pouvoir répondre au quotidien, à apporter des solutions, parce que il faut d'abord arriver à diagnostiquer sérieusement le problème, il faut structurer les types de solutions qu'il faut apporter. Les problèmes sont généralement complexes. Et donc l'ingénieur, c'est cet homme de métier qui apporte ses connaissances pour résoudre au quotidien des problèmes de nature technologique. Et c'est lui qui apporte des solutions pour permettre à ce que on résolve les questions liées au transport, qui est plus donc le meilleur transport, un transport qui sécurise, qui soit plus fiable, plus économique, mais également un mode de transport qui ne puisse pas polluer, hein, qui permet à ce qu'on protège l'environnement, qui permet à ce que la santé humaine soit assurée. Donc l'ingénieur, c'est justement celui-là qui fait tout ce travail de dimensionnement pour qu'il y ait tous ces équipements nécessaires pour pouvoir améliorer la santé, le mot de santé, le mot de soins qu'il faut apporter. L'ingénieur, c'est celui-là qui permet de pouvoir réguler l'organisation des processus dans les industries pour qu'il y ait les meilleures industries, les industries décarbonées, les industries qui ne surchargent pas la planète n'est-ce pas, en termes de pollution. Et c'est donc cet ingénieur, celui-là, qui est sollicité au quotidien, est sollicité pour pouvoir définir des solutions techniques. Donc l'ingénieur, c'est donc celui-là qui a été formé et à qui on donne suffisamment d'outils de conscience et des responsabilités pour qu'il apporte donc aux différentes interrogations de la société, qu'il puisse apporter des solutions. Des solutions sans ingénieurs, il n'y aurait pas d'extraction minière, il n'y aurait pas de développement minier, il n'y aurait pas donc d'extraction, hein, tout serait totalement difficile. Sans ingénieurs, ben il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas d'énergie. Sans ingénieurs, la bombe thermique aujourd'hui qui sollicite le monde entier, n'est-ce pas, serait en train de menacer et on vivrait totalement désarmé. Donc l'ingénieur, c'est celui qui donne des espoirs à l'humanité et c'est donc comme ça que les Nations Unies ont compris qu'il faudrait réserver une journée particulière pour célébrer réellement la contribution de ces corps de métier et pour qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, il est temps d'agir et de donner de la place à ces corps de métier pour, n'est-ce pas, des solutions et des solutions innovantes, des solutions qui permettent de rassurer. Hein, on parle de tremblement des terres, on parle des séismes de toutes sortes. Et lorsqu'il y a tous ces différents événements, généralement, les dégâts sont énormes. Donc les aléas sont nombreux. Les aléas climatiques, ils sont très nombreux. Les catastrophes naturelles sont très nombreuses. Et à chaque catastrophe, vous savez qu'on enregistre des milliers et des milliers de morts. Hein? Aujourd'hui, partout, on a des ouvrages. Les villes naissent, les villes grandissent. Il y a surpopulation.
Oui.
Et la densité est décriée. Mais tout cela a des conséquences. Mm-hmm. Des conséquences sur le mode de vie. Et les menaces que les villes aujourd'hui, auxquelles les villes donc font face, demandent qu'il y ait des solutions que les ingénieurs apportent. On parle de l'apport des infrastructures résilientes, des infrastructures qui permettent de résister à toute forme d'agressivité pour préserver la vie humaine.
Oui.
Donc les ingénieurs sont ceux-là qui, en tout cas, aujourd'hui portent la responsabilité de protéger la société. Donc voilà, il y a beaucoup à dire.
Il y a beaucoup à dire donc, là-dessus, oui.
Oh oui.
D'accord, on va donner la parole à Monsieur Popol Biabia, premier vice-président de l'ONICIV, qui est l'Ordre National des Ingénieurs Civils. Monsieur Popol, bonjour.
Bonjour.
Bien, alors dites-nous, quelle est la contribution de l'ONICIV aujourd'hui dans les développements du pays, hein, surtout nous parlons du développement durable.
Merci beaucoup pour la parole et merci pour l'opportunité que vous nous accordez de porter à la connaissance du grand public le peu de réalisations que nous pouvons, sans ambages, épingler à la réalisation, contribution spécifique des ingénieurs civils. Mais nous allons étendre notre propos sur les autres corps de métier, comme l'a fait le président Médard d'entrée de jeu. Parce que, voyez-vous, nous ne devons pas évoluer dans un ordre qui n'est pas bien maîtrisé. Nous sommes, certes, dirigés par la politique, cette politique qui doit se manifester par l'établissement, l'émission d'une vision de développement global qui met en place un cadre institutionnel adapté au développement global et qui détermine de ce fait les rôles des uns et des autres, les rôles des corps de métiers différents, les rôles des institutions nationales différentes. Et enfin, cet État qui doit en assurer la régulation pour permettre que tous nous puissions évoluer ensemble. Plaçons-nous dans la logique qui est celle des ODD, les objectifs de développement durable, qui sont émis par les Nations Unies et que notre État a ratifié. Alors, chacun des aspects que vous allez suivre dans ces différents 17 points majeurs,
les ODD.
Vous trouverez le rôle et l'impact de l'ingénieur. Je vous donne un exemple. On parle de l'accès à l'eau potable. On parle de l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le taux de desserte en électricité, en général, dans notre pays, reste inférieur à 10%. Ça signifie, en clair, que si nous sommes 100 millions d'habitants, seulement 10 millions ont accès à l'électricité. Je ne parle même pas d'une électricité fiable, d'une électricité qui est exempte de toutes sortes de délestages et autres. Mmh. Mais que faisons-nous des 90 autres millions? C'est là que les ingénieurs contribuent effectivement dans la production des études de base sur lesquelles la politique nationale devrait s'asseoir et pouvoir résoudre ce problème. Nous sommes effectivement dans une optique de planification. Le cadre institutionnel, comme je l'ai dit, est plus ou moins assaini. Nous disposons à ce jour de quelques agences spécialisées, de quelques grandes sociétés compétitives. Mais malheureusement, le constat reste le même, ça n'avance pas. C'est pour ça que moi, j'irai directement dans le sens de faire un plaidoyer pour dire que nous pouvons commencer par réaliser des choses qui sont à la portée de notre compétence.
Par exemple, monsieur Popol, par rapport à l'accès à l'eau et à l'électricité, qu'est-ce que les ingénieurs peuvent apporter pour développer ces secteurs?
Eh bien, à ce jour, le pays dispose d'un atlas qui indique avec une certaine précision quel est le potentiel énergétique de notre pays. C'est le fruit des études menées par des ingénieurs avec l'appui de quelques partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD. Et à ce jour, il existe des études spécifiques pour indiquer, par exemple, comment on peut amener l'électrification dans un village de Popocatépetl. Il faut que l'on pose ce problème-là, que l'on mette en place des dispositions pratiques pour permettre à l'ingénieur de matérialiser ce qu'il peut avoir produit comme étude. Croyez-moi, à ce jour, sans l'apport de l'ingénieur, même les 10% qui ont accès à l'électricité auraient cessé d'avoir accès à l'électricité depuis belle lurette. Donc la maintenance qui a été citée par le président Médard comme une des activités importantes qui sont assurées par les ingénieurs permet à ce jour à l'outil de production en hydroélectricité en particulier, parce que notre parc électrique est à 90%, voire même plus, basé sur l'hydroélectricité. Et dans ce pays, vous avez toutes les technologies connues, partant des plus vieilles jusqu'aux plus récentes, parce que nous avons les plus vieilles centrales hydroélectriques qui continuent de marcher, d'autres qui sont très récente. Prenons deux extrêmes, la centrale de la Tchopo à Kisangani et celle de Busanga qui vient à peine d'être inaugurée dans le Lualaba. Vous avez là la preuve que les ingénieurs peuvent apporter des solutions lorsqu'ils sont placés dans des dispositions et des conditions de travail qui rencontrent une vision d'avancement qui match avec un cadre institutionnel bien maîtrisé et bien régulé.
Bien. Voilà. Alors, nous parlons de l'importance de l'ingénieur et de l'ingénierie dans le développement durable du pays. Monsieur Charles Meda Ilunga, la RDC était on peut dire que le pays est un vaste chantier. Aujourd'hui, quelles sont les solutions que les ingénieurs proposent pour booster le développement durable du pays?
Oui, je crois que l'ingénieur aujourd'hui a besoin de plus d'implication, d'abord son implication, bien sûr, mais nous avons besoin qu'il y ait une gouvernance quadripartite. Comme partout, une gouvernance quadripartite suppose quoi? Suppose que les ingénieurs travaillent avec les plans de développement du gouvernement. Les plans de développement, donc, qui est bâti par le gouvernement. Et c'est des plans stratégiques sur plusieurs années. Hein, et vous savez qu'à la suite des ODD, de cette ODD des Nations Unies, chaque pays a été invité à définir des plans stratégiques et des actions stratégiques, hein, pour pouvoir accompagner la réalisation de ces 17 ODD. Alors, ça c'est d'abord une chose, c'est que quand je parle d'une gouvernance quadripartite qui doit être très cohérente, ça veut dire qu'il faut que toutes les actions partent du plan stratégique du gouvernement et qu'il y ait un véritable dialogue à quatre entre le gouvernement, entre l'ordre des ingénieurs, l'université et l'industrie. Comme vous le savez, si j'ai cité ces parties, vous savez très bien que les différents piliers qui soutiennent le développement, c'est d'abord l'éducation. Il faut une meilleure éducation qui forme pour nous, qui formerait des meilleurs ingénieurs. Il faudrait réellement des infrastructures. C'est un véritable pilier. Et pour ça, vous voyez qu'il faut avoir des gens qui ont les meilleures connaissances parce que les infrastructures dont on parle maintenant dans le développement durable, c'est des infrastructures résilientes et des infrastructures décarbonées. Donc, celles qui ne viennent pas encore davantage chargées n'est-ce pas l'environnement.
Quand vous parlez des infrastructures résilientes, de quoi il s'agit?
Oui.
On pouvait donner des exemples.
Oui. Je donne des exemples. C'est-à-dire, regardez, prenons la ville de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui, il y a aussi bien de nouveaux ponts que des anciens ponts. Et la plupart des ponts, je prends le pont Djili par exemple, c'est des ponts dont les piles. Il y a des piles qui sont fondées dans l'eau. Vous savez qu'avec les changements climatiques, les piles qui sont fondées dans l'eau connaissent des menaces. Il y a souvent des courants tourbillonnaires tout autour des piles.
Oui.
Donc, toutes les fois qu'il y a ce genre de sollicitation, eh bien, il faut se dire que la menace est là. Vous avez le pont Makelele, par exemple. On y passe. Mais ces différents ponts requièrent réellement un meilleur suivi au niveau même déjà des piles. Il y a beaucoup de projets, il y a aujourd'hui des projets de construction dans lesquels par exemple on pense qu'il y aura des ponts au Bani dans le pays. C'est des très bonnes technologies, mais l'histoire nous montre que il faut avoir une meilleure conception, il faut avoir des meilleures études qui rassurent et mettre en place des équipes qui assurent la meilleure mise en œuvre.
Oui.
Donc, ce sont des compétences qu'il faut amener pour sécuriser le pays. Et c'est justement ce que je suis en train de dire en parlant des infrastructures résilientes. Il faut pas amener des infrastructures qui, au moindre événement exceptionnel, cèdent. Et regardez, chaque fois qu'il y a des inondations, on les déplore. On se limite parfois à faire de simples évaluations.
Oui.
Mais il faut des plans, des prédictions. Et ce sont les ingénieurs qui doivent savoir dire, voilà, comment faut-il gérer les risques Ça veut dire comment faut-il atténuer, soit atténuer les dégâts, comment faut-il, qu'est faut-il faire, où ne faut-il pas construire. Donc les ingénieurs, en faisant une meilleure approche, une meilleure modélisation de toutes ces questions, les ingénieurs proposent les ouvrages qu'il faut pour assurer la protection.
Bien, Charles Médard, un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'importance de l'ingénieur et de l'ingénierie dans le développement du pays, durable du pays. Achille, vous êtes à Lubumbashi, Ismaël également. Achille, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodu, bonjour aux invités, bonjour aux auditeurs.
On vous écoute.
Ouais, bon, il faut quand même reconnaître que la place des quoi des ingénieurs au Congo, ils sont bel et bien là. La preuve est que nous avons vu à Lubumbashi, par exemple, et peut-être aussi ailleurs, des robots qui ont été créés par les ingénieurs congolais pour régulariser les quoi la circulation à lieu et place des quoi des PCR. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais il y a quand même un défi qu'il faut encore relever, parce que l'invité a dit la formation. Vous savez, notre système de formation est beaucoup plus orienté sur la théorie que la pratique. Bien que ça va de pair, mais ça doit quand même être équilibré. Prenons l'exemple des pays comme la Chine. Vous verrez, depuis des bas âges, dans les écoles, les enfants apprennent déjà à créer quelque chose. Donc, ils sont beaucoup plus formés sur la notion pratique et les résultats bien réels. Voilà pourquoi vous voyez même les parents préfèrent envoyer leurs enfants en Europe, à l'étranger, en France, Canada et Chine, par exemple. Donc, tout cela pour dire que la formation ici chez nous n'est pas vraiment pareille. La formation, par exemple, des pays étrangers. Vous allez même constater avec moi, je pense que quand l'État...
Vous voulez dire qu'ici, au pays, on ne forme pas bien les ingénieurs?
Non, je l'ai dit, je l'ai bien consigné au début, qu'il faut reconnaître la place des ingénieurs. Ils sont bel et bien là.
Oui.
Ils sont là, mais c'est quand même un défi qu'il faut relever. Voilà.
Par rapport à la formation?
Par rapport à la formation, parce que la formation ici est beaucoup plus orientée sur la théorie que la pratique.
C'est sur la pratique. Merci beaucoup, Ismaël Mopoy de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kacham. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Mais à mon niveau, je pense que ces journées pouvaient être célébrées, commémorées d'une manière différente de celle dont on commémore aujourd'hui. Nous venons de parler un peu du jeu de la francophonie. C'est déjà été mis et les infrastructures par rapport aux ingénieurs. Imaginez si nous n'avons pas des ingénieurs, nous ne pouvons pas avoir des maisons, des terrains de football, des routes et des consorts là. C'est-à-dire qu'il faut valoriser ces journées pour valoriser ce qui nous rend un service, qui nous donne les infrastructures, les routes et des consorts là. Je pense que si on pense d'une autre manière que ce dont nous pensons aujourd'hui, les ingénieurs de la RDC pouvaient être au cosmos. Où je vous donne un exemple. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui viennent d'ailleurs. La plupart des Congolais souhaitent prendre ceux qui viennent de pays étrangers plutôt que de prendre les Congolais d'origine. Pourquoi il existe aussi des écoles ou des universités pour les ingénieurs? Tant mieux valoriser ce dont nous avons dans notre pays, plutôt que prendre ce qui vient d'ailleurs. Je pense que nous avons besoin aussi de la canne, de stade et de consorts. Ceux qui feront ce travail seront nos propres frères congolais.
Voilà, valoriser l'expertise locale au lieu toujours de recourir aux étrangers. Bien, merci d'avoir appelé. Monsieur Popol Biabia, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Bien, merci beaucoup. Je salue également les auditeurs Achille et Ismaël. Je suis content de voir qu'ils reconnaissent que les ingénieurs au Congo apportent des solutions à certains problèmes, notamment cet épineux problème d'embouteillage dans les grandes villes de l'État. J'aimerais saisir cette occasion pour dire à Achille que la signalisation routière est une piste de solution, mais ce n'est pas l'unique solution. Il y a énormément de modèles qui sont développés dans la transformation des voies de circulation et qui, malheureusement, demeurent au stade d'avant-projet parce que ils n'ont pas le lobby nécessaire, ils ne trouvent pas l'oreille attentive là où nous exerçons certains lobbies. Il est très compliqué qu'aujourd'hui, lorsque nous avons affaire à des érosions dans la ville de Kinshasa, nous voyons systématiquement le pouvoir public recourir aux entreprises chinoises, recourir aux entreprises turques, alors que nous pouvons nous rappeler que le génie militaire de la FRDC a longtemps combattu et maîtrisé des érosions pour lesquelles personne ne pouvait imaginer qu'elles en viendraient à bout. Je cite pour mémoire le cas de l'érosion qui a emporté la route de l'université, l'avenue de l'université à hauteur de Livoulou. Je cite également le cas de la grande érosion qui avait menacé et même emporté une partie de la cité Maman Mobutu sur la colline de Mongafula. Aujourd'hui, cette expertise est toujours là, mais c'est son équipement qui a connu, je dirais, une déperdition systématique après les pillages de tristes mémoires, etc.
Oui.
La théorie, pour chuter sur le cas de l'intervention de M. Ismaël, la théorie, c'est la base de tout. Effectivement, aujourd'hui, je salue le courage avec lequel le Conseil national de l'Ordre des ingénieurs civils a préféré placer sous le mode de sensibilisation la célébration de la journée mondiale de l'ingénieur et de l'ingénierie. Parce que, voyez-vous, il est difficile de parler de cette journée au niveau national en laissant les ingénieurs de Kolwezi à Kolwezi, ceux de Kinshasa à Kinshasa, ceux de Matadi à Matadi, ceux de Mbandaka à Mbandaka. Reconnaissons et saluons d'ailleurs le programme de développement des
145 territoires.
Ceci prouve à suffisance que des ingénieurs de toutes les formations se sont déployés à travers le pays. Les agences d'exécution de ces projets sont en train de travailler avec des PME, des PMI congolaises. Et ces agences délivrent dans le bon délai
des infrastructures de qualité.
Les infrastructures attendues. Je ne voudrais pas tirer sur les agences étrangères qui éprouvent, à cause de certaines questions d'ordre, je dirais, procédural, qui éprouvent d'énormes difficultés pour surmonter les défis dans l'arrière-pays. Le Congo profond, avec tout ce que nous connaissons comme difficultés en infrastructure routière, en infrastructure aéroportuaire, en infrastructure de navigation navale, reste quand même notre pays, et nous avons des frères, des amis qui vivent dans ces coins-là et qui montrent un taux de résilience au-delà de l'imaginable. Il suffit, comme je disais tantôt, qu'une régulation correcte puisse replacer l'ingénieur au centre de la conduite de ces infrastructures et pourquoi pas garantir un décollage bien maîtrisé.
Quelle est l'importance de l'ingénieur et de l'ingénierie? Charles Médard Ilunga, Achille tout à l'heure de Lumbashi nous a parlé de la formation. Il dit que oui, nous formons des bons ingénieurs, mais parfois ils sont plus théoriques que beaucoup plus la formation théorique que pratique. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Non, moi je crois que Popol a bien répondu d'abord à la question. Au départ, il faut beaucoup de théories, il faut des connaissances et des connaissances très pointues. Vous savez, l'ingénieur a les atouts d'avoir beaucoup de bases mathématiques qui lui permettent d'avoir une approche à tout problème, même quelque complexe que ce problème soit. Il faut absolument que l'ingénieur ait autant de connaissances. Je crois que du point de vue des compétences, il n'y a rien à dire. L'ingénieur civil particulièrement est reconnu compétent à travers plusieurs rapports.
Et d'ailleurs, l'effort que l'ONICIV fait aujourd'hui, c'est de s'aligner sur les accords de compétences internationales. C'est arriver à donner une définition très claire de la compétence. Il ne s'agit pas de les dire juste théoriquement, non. C'est compétence par rapport à des solutions qu'on apporterait dans telle ou telle situation. Je crois qu'il ne faut pas réduire du tout. Je crois que les pays a de petits projets, hein, a des projets qu'on voit facilement. Non, le pays est en train de s'engager et doit s'engager dans des très grands projets, des projets de grande envergure. Et dans ces projets de grande envergure, la responsabilité des ingénieurs est de mise. Hein, imaginez-vous, les pays commencent à construire, par exemple, des bâtiments de plus de 20 étages, ici, là-bas, dans des grandes villes. Et ça, c'est nécessaire parce que le pays est appelé à ça. J'ai dit tantôt, le pays est appelé à construire, nous avons un pont suspendu à Matadi. Savez-vous les défis dans la gestion d'un tel pont, un pont suspendu? C'est un pont à câble, savez-vous? J'ai parlé des ponts à auban, savez-vous qu'il y a autant de dispositions qu'il faut prendre. Donc il ne faut pas réduire du tout l'ingénieur à des solutions, à des petites solutions. Il faut regarder l'ingénieur sur des grandes réponses qu'il apporte sur des problèmes, par exemple, des luttes contre les embouteillages. Hein, quel est le modèle de trafic que l'ingénieur propose pour chaque ville? Hein, face à la surpopulation, qu'est-ce qu'il faut d'ici 30 ans pour que les villes résistent au trafic? Ce sont ce genre de réflexions que les ingénieurs sont en train de faire et doivent faire pour donner des solutions aux grands défis de notre pays. Vous savez, on a évoqué la question des robots. Ben d'accord, ça c'est encore pour réguler un petit carrefour. Mais il faut regarder la robotisation et l'automatisation sur des grands axes. Imaginez des grands carrefours avec 8 voies hein, et que les ingénieurs sont appelés à proposer des modèles de trafic pour gérer la sécurité à travers ces différents carrefours. Ce sont là les problèmes de génie que les jeunes congolais sont capables de pouvoir résoudre. Et nous n'avons pas besoin toujours qu'on recoure à des étrangers. Ce que l'ONICIV est en train de faire, d'ailleurs, c'est de faire prendre conscience aux structures de l'État. Nous avons déjà la loi 18/033 qui crée l'Ordre des ingénieurs. C'est déjà une entité à laquelle l'État donne une autorité de service, de mission publique, pour regarder l'ingénierie dans notre pays, pour s'assurer que réellement tout est fait de manière conforme. Vous savez, quand de plus en plus on exige qu'il y ait des études, mais c'est parce que sans études, on ne sait pas du tout s'assurer qu'on a proposé les meilleures solutions. On a pu faire une approche, on a pu regarder les meilleures solutions possibles qu'il faut. Il faut s'assurer que les études ont été faites. Et c'est dans tous les secteurs. Dans les secteurs miniers, dans l'industrie minière, dans l'industrie agricole, partout où il y a des machines, partout où il y a des processus, les ingénieurs sont appelés à regarder ces processus, mieux les optimiser pour l'intérêt du public. Mmh. Il ne faut pas qu'aujourd'hui un bâtiment de 20 étages tombe s'il est construit. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, par exemple, que le pont suspendu avec tout ce qu'il a eu, avec tout ce qu'il a comme défi, que ce pont tombe. Je vous ai parlé des différents ponts, notamment dans la ville de Kinshasa. Imaginez qu'un pont cède dans la ville de Kinshasa, c'est que cela fait comme défi technologique.
Charles
Donc
Ménard,
les ingénieurs sont appelés.
Charles Ménard,
oui.
Est-ce qu'on peut par exemple penser un jour ici en RDC avoir des autoroutes superposées comme
le plan de développement doit absolument contenir. Quand je parle de modèle de développement, modèle de trafic, mais justement, l'ingénieur gère les données. Il sait dire, il sait positionner les équipements en fonction de la manière dont ces équipements génèrent le trafic. Et en fonction de ça, l'ingénieur sait dire non, ici, il faut des carrefours avec des routes superposées. Il faut s'attendre à ça, je dis. Il faut s'attendre absolument à ce genre d'infrastructures. Mmh. Donc il ne faut pas réduire notre pays à des simples routes avec des routes à croisement à niveau qui d'ailleurs montrent leurs limites, nous posent beaucoup de problèmes d'embouteillage au quotidien.
Bien. Alors, nous avons le programme de développement des 145 territoires qui, on suppose que tous les territoires du pays seront développés. Alors, la place de l'ingénieur aura du pain sur la planche, beaucoup de travail à faire dans la matérialisation de ces programmes.
Les 145 territoires, ça fait un projet. Mais vous savez, les projets doivent être très intégrateurs. Il faut des projets qui amènent plus de connectivité. Hein, vous avez des hôpitaux qui sont reliés à des centres commerciaux, qui sont reliés à des écoles, qui sont reliés à des grandes routes. Donc, il faut assurer la connexion. Pour que ces infrastructures soient plus productives, il faut que ces infrastructures soient connectées, interconnectées. Donc, il faut tout un plan de développement qui intègre le développement des 145 territoires dans un grand réseau et justement à ce moment-là, tout ce qu'on est en train de construire, en tout cas, va beaucoup aider la République. Hein, vous savez, on a parlé des déficits de d'habitat. L'État n'a pas de bureaux dans les grandes entités. Donc les PDL, n'est-ce pas, amènent des solutions à toutes ces questions, amènent des réponses à toutes ces questions. Il faut des infrastructures qui s'intègrent, hein, connectées. Et c'est là qu'on parle de grands projets, donc de projets connectés, hein, pour que on ait de vrais transits, hein, qu'on ait de vrais canaux de transit, de transport. Hein, il faut que le fleuve, la route et tout soit connecté. À ce moment-là, on est sûr qu'on est en train d'apporter des meilleures réponses durables. Surtout ça, durables. Donc aujourd'hui, on sait vivre, mais il faut que dans 30 ans, dans 100 ans, qu'on sache aussi vivre dans notre pays.
Bien, on va accueillir l'ingénieur Idriss Moufoukou, il est expert en efficacité énergétique. Ingénieur Idriss, bonjour.
Les journalistes.
Bienvenue dans cette émission. Alors dites-nous, nous parlons de l'importance de l'ingénieur et de l'ingénierie dans le développement durable du pays. Par exemple, dans les domaines de l'énergie, qu'est-ce que les ingénieurs peuvent apporter pour résoudre le déficit que nous connaissons en énergie électrique?
Merci beaucoup pour la question. J'ai suivi l'émission depuis le début. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais placer un élément très important pour dire que le concept d'ingénierie en RDC n'a pas vraiment répondu aux vrais besoins du pays, parce qu'en fait, il y a l'inadéquation entre le programme de formation dans la majorité des écoles d'ingénierie en RDC avec le besoin réel du marché de l'emploi, ce qui fait que la majorité d'ingénieurs en RDC, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect aux professeurs d'université, sont plus restés dans un créneau très théorique. Et pourtant, l'ingénierie fait appel aux méthodes qui poussent à l'invention, à la créativité ainsi qu'à l'innovation. Mais vous allez voir que l'ingénieur congolais a gardé jusqu'à nos jours un œil un peu prise en otage par les néocolonialismes où les gens pensent qu'avoir beaucoup de mathématiques, faire beaucoup d'exercices au tableau, ça signifie qu'on est compétent. La compétence, c'est par rapport à la résolution d'un problème des communautés. Donc, j'allais commencer par cette parenthèse. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que les ingénieurs doivent faire dans le secteur de l'énergie? Je pense que le premier travail, d'abord, c'est contextualiser les compétences de l'ingénieur par rapport aux besoins du marché. Quand vous regardez la majorité des infrastructures énergétiques en RDC, et vous allez constater que c'est plus les expatriés qui sont sollicités. Donc la plus grande question qu'il faut se poser, est-ce que c'est parce que le Congo n'a pas de compétences dans les domaines, ou bien c'est une question d'ordre politique qui fait en sorte que à chaque fois qu'il y a un grand projet par rapport à la construction des ouvrages énergétiques, on fait appel à des expatriés. Je prends l'exemple du programme des 145 territoires aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'ouvrages qui sont construits par-ci, par-là, vous allez constater que la plupart des marchés sont octroyés aux expatriés. Donc, d'un côté, il y a l'influence politique, qui favorise les expatriés. Je suis pas contre ces expatriés, mais de l'autre côté, il y a aussi niveau des compétences de l'ingénieur congolais qui est plus dans la théorie. Et alors, pour remédier à cette question, il faudrait d'abord revisiter, il faudrait actualiser les programmes de formation dans toutes les écoles d'ingénierie en RDC. Pour que le programme de formation soit plus axé sur la pratique et la théorie vienne accompagner. Ça ne sert à rien aujourd'hui de gonfler les cerveaux des jeunes gens à l'université avec beaucoup de théories. Et une fois ils sont éjectés sur les marchés de l'emploi, et ils ne savent rien faire. Je vais donner un exemple typique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect à ce qui se passe à l'UNIKIN. Aujourd'hui, vous allez à l'UNIKIN, vous trouverez le département de pétrole et gaz, où on est en train de former les étudiants. C'est chaque année, on déverse sur le marché de l'emploi pas moins de 500 ingénieurs pétroliers. Mais le Congo a combien d'entreprises pétrolières? Est-ce qu'il y a eu une étude de faisabilité par rapport aux besoins du marché de l'emploi avant de mettre ces départements? Ou bien on est en train de faire du copier-coller, on prend quelque chose de l'Occident, on amène ça en Afrique. Et donc le vrai problème aujourd'hui, c'est à ces niveaux. Cela ne veut pas dire que le Congo n'a pas de ingénieurs compétents. Les ingénieurs, il y en a, mais qui sont en train de se faire former peut-être ailleurs. Alors, aujourd'hui, la vraie question, c'est au niveau de réformes par rapport au programme de formation dans toutes ces écoles d'ingénieurs, réduire la théorie, amener plus les ingénieurs dans un contexte d'invention, de créativité et d'innovation, pour que nous puissions parler de l'autonomie ou de l'indépendance technologique.
Merci,
quand
monsieur Idriss.
Vous prenez l'exemple de la Chine, vous prenez l'exemple de toutes ces grandes inventions à travers le pays, vous allez voir que ce sont des gens qui se sont plus concentrés sur le savoir-faire que sur les savoirs simples.
Merci, monsieur Idriss. Monsieur Popol, bien, à vous la parole. Monsieur Popol, vous êtes là?
Je suis là.
Oui, vous avez suivi l'ingénieur Idriss qui est revenu sur la formation. Il dit par exemple qu'on a à l'université de Kinshasa, on forme des ingénieurs en pétrole et gaz, mais après, est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce qu'ils répondent réellement aux besoins de la société?
Bien, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Je crains de ne pas forcément partager son point de vue, mais je le comprends. Vous savez, avant d'attaquer un aspect particulier, il est nécessaire d'avoir fait le contour de ce qui est disponible dans la documentation et dans la pratique. À ce jour, avoir des ingénieurs en pétrole et gaz est pour la RDC une nécessité absolue et une nécessité indéniable. Nous sommes obligés de recourir à des firmes et à des universités canadiennes, pour ne pas les citer, pour déterminer la localisation de certains blocs pétroliers. Mais vous savez que en toute matière de géologie, en physique appliquée, vous ne disposez pas des matériaux isolés dans la nature. Ces matériaux se trouvent toujours sous une nature, sous une forme plus ou moins combinée à d'autres matériaux. C'est pour ça qu'il est nécessaire de maîtriser la connaissance de cela. Nous avons sur la rive nationale à Moanda, une exploitation pétrolière qui est tenue par des étrangers depuis longtemps. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, vous la connaissez. Nous avons une raffinerie de pétrole qui a été déclarée incompatible avec la qualité du pétrole brut qui était produit chez nous, tout simplement parce que certaines gens se sont précipités dans la commande de ces équipements sans en maîtriser le pour et le contre. Je peux ainsi passer aussi, si vous le permettez, sur le cas de la fibre optique. Nous avons peut-être le plus long trajet couvert par la fibre optique entre Moanda, Kinshasa, et de Kinshasa jusqu'à Kasumbalesa. Mais quelle est la qualité de cette fibre? Lorsqu'on vous dit qu'il faut faire précéder l'implémentation des projets par des études faites dans les normes de l'art, de la science, c'est important. Je vais quand même revenir sur la question des innovations, parce que je suis parmi les lobbies pour la jeunesse de notre pays. Et je prends particulièrement la jeunesse de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, d'où je suis issu. À ce jour, nous avons acquis à la faculté Polytechnique Skills. C'est un groupe de jeunes qui ne fait que des inventions. Je ne suis pas dans l'excès, s'il vous plaît. Je peux vous citer le cas d'une application de messagerie instantanée qui marche sur une plateforme Android, comme Masolo. Masolo est une création d'un jeune ingénieur civil qui a démontré que il lui suffit de notre confiance, nous en tant que utilisateurs, pour que Masolo connaisse un boom basé sur notre propre démographie. La pénétration de la technologie de cellulaire mobile est telle que aujourd'hui, la RDC constitue une destination de choix pour les investisseurs. Alors, pour terminer sur ce chapitre-là,
oui,
je vais égratigner exprès les responsables du fonds, le FOGEC. Hein, vous voyez le FOGEC qui est ce fonds...
Le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo.
Pour l'entrepreneuriat au Congo.
Oui.
Que j'ai personnellement abordé, avec qui nous avons discuté de ce qu'ils peuvent soutenir comme start-up parmi les petites entreprises mises en place par ces jeunes qui sont encadrés dans le groupe de Polytechnic Skills. Mmh. Et cela depuis 2022, s'il vous plaît. Mais aucun d'entre ces jeunes n'a jamais été appelé, ne fût-ce qu'à une interview pour procéder à la démonstration de ce que les jeunes sont capables de créer. Je comprends donc le cas de M. Idriss, qui n'est pas informé. Je vous saurais gré de bien vouloir me partager ses coordonnées pour qu'en offline, je puisse le mettre en contact avec les garçons et filles de la faculté polytechnique, ceux de la faculté des sciences, particulièrement de géologie, pétrole et gaz, et ceux des autres facultés, y compris la faculté des sciences appliquées de l'ULPGL à Goma. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que l'ingénieur, même au stade embryonnaire, est capable de créer. Il suffit, j'insiste, qu'il soit bien encadré. Et là, c'est encore un cri de cœur lancé à l'endroit des décideurs du pays pour dire, prenez ces ingénieurs, mettez-les à l'œuvre.
Parce qu'on déplore surtout que, les auditeurs ont déploré le fait que quand il y a des grands travaux, il y a des gros projets, on recourt souvent à l'expertise étrangère, on fait appel aux ingénieurs expatriés, alors que nous avons la main d'œuvre qualifiée ici au pays. Monsieur Charles Médard Ilunga, votre avis?
Non. Moi, je crois que je partage les avis des Popol, dit tantôt. Et là, je ne rejoins pas du tout. Je suis très 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 loin de rejoindre
Monsieur
Moufouka Idriss.
Oui.
Regardez, je crois que Monsieur Moufouka devrait plutôt parler du sous-emploi des ingénieurs congolais. Là, beaucoup d'ingénieurs se plaignent. Ils se plaignent. Ils ont toutes les capacités et malheureusement, les expatriés, la tendance est à pouvoir les sous-utiliser. Et ça, il faut déplorer. Mais en termes de compétences, quand il parle d'inadéquation, je partagerai l'avis avec lui en disant qu'il n'y a pas un effort de planification. C'est-à-dire que l'industrialisation est tellement lente et il n'y a pas une espèce d'adéquation entre les efforts d'industrialisation et les efforts liés à la formation des ingénieurs. Ça devait aller ensemble. Les besoins devaient être optimisés. Donc, on devrait s'assurer réellement qu'on produit des ingénieurs pour un besoin. Mais, ne vous en faites pas, quand tu as parlé des compétences, les ingénieurs formés dans les facultés polytechniques, j'insiste bien, de l'UNIKIN, de l'Université de Lubumbashi, dans une grande partie, c'est des ingénieurs très compétents. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter des réponses tout à fait internationales. Ça veut dire, nous sommes en train de nous aligner au niveau de l'UNICEF sur les accords de Washington et sur les accords d'agrément des compétences. Ces accords définissent les compétences requises et au niveau d'abord des diplômés et au niveau des professionnels. Et c'est donc sur cette base internationale que nous sommes en train d'accréditer tout ce que nous disons comme nombre de compétences. Donc quand nous vous parlons de compétences, il s'agit des ingénieurs capables d'émigrer, capables de quitter la RDC pour travailler dans un autre pays. Nous travaillons sur ces accords. Mais comment pouvez-vous former des ingénieurs sans leur donner beaucoup de mathématiques? Savez-vous que c'est pour avoir réduit le niveau des mathématiques dans les écoles secondaires qu'on est en train aujourd'hui de regretter certaines formations qui sont assez tronquées? Ce sont les mathématiques qui permettent de donner toutes ces capacités de finesse, cet esprit géomètre aux ingénieurs qui leur donne beaucoup d'aptitudes, beaucoup de capacités cognitives pour pouvoir apporter des réponses à des questions. A-t-il seulement une fois eu à donner un problème d'infrastructure, un problème donné à des ingénieurs qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas été en mesure de répondre? C'est réellement à regretter qu'on puisse recourir à la main d'œuvre extérieure, qui d'ailleurs n'est jamais spécialisée. D'ailleurs, les ingénieurs qu'on prend, ceux-là qu'on appelle ingénieurs étrangers qui viennent, ils font travailler plutôt les ingénieurs congolais. Et c'est cela que nous refusons. Nous voulons donc que l'ingénieur congolais porte la responsabilité. Et que tout ingénieur qui vient de l'extérieur, il faut qu'il se fasse aussi d'abord agréer, qu'il se fasse enregistrer par l'ordre des ingénieurs pour qu'il ait réellement la qualité et le permis de pouvoir exercer. Mmh. Et donc, il ne faut pas se tromper sur la formation dans nos universités. Nous avons tous les témoignages possibles et nous savons que nous avons toutes les compétences. Tout ce qu'il faut plutôt, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de montrer à l'État qu'il faut travailler sur la formation, donc la promotion d'une offre d'ingénierie publique avec les différents établissements. Il faut que dans ces établissements, dans ces agences, qu'il y ait des ingénieurs bien formés.
Oui.
Bien formés. À ce moment-là, leur production, les études qu'ils produisent sont opposables sur le plan international. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de connaissances. On ne s'improvise pas. On ne vient pas avec des études improvisées, non. On vient avec des études comparables sur le plan international. Donc, je crois que là, je ne sais pas quelle information il a, M. Mufuka, mais il faut regarder.
Bien, merci M. Charles Médard Ilunga, président de l'Ordre National des Ingénieurs Civils. ONICIV, nous disons également merci à M. Popol Biabia, premier vice-président de l'ONICIV, conseil provincial de Kinshasa. Excellente journée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Pierre Diassinoa a assuré la mise en onde de Tati Mapoukou, a été à la coordination et à la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.